explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est l'histoire d'un jeune niçois de 14 ans qui se prend de passion pour la plongée en apnée. Il y voit un moyen d'habiter le monde autrement. C'est lorsqu'il arrête de respirer, lorsqu'il retient son souffle pour s'enfoncer dans les profondeurs de la Méditerranée, qu'il se sent le plus vivant. Très vite, notre jeune plongeur, Guillaume Néry, noue un lien intime avec la mer. À force de la fréquenter et de s'aventurer sous sa surface, son corps se transforme. La Grande Bleue le façonne pour qu'il s'adapte à l'hostilité des abysses. Tant et si bien qu'il devient un champion dans sa discipline. À 4 reprises, Guillaume Néry bat le record du monde d'apnée. Mais le sportif est stoppé dans sa course à l'exploit par un accident de plongée qui manque de lui coûter la vie en 2015. Fini la quête de performance à tout prix, reste le lien indéfectible avec l'élément liquide. Comme un besoin vital, l'apnéiste continue à s'immerger dès qu'il en a l'occasion dans les eaux de la planète. Entre deux respirations, il nage avec des cachalots, explore des gouffres sous-marins, se faufile dans de mystérieux mondes engloutis. Après la compétition, est venu le temps de la contemplation et de l'introspection. Guillaume Néry raconte son parcours et son rapport à la mer dans un joli livre intitulé « Nature aquatique » qui vient de paraître aux éditions Artaud. Cet après-midi, l'apnéiste nous emmène à travers le monde dans ses aventures sous-marines à couper le souffle. Claire Tesser a préparé cette émission, Stéphanie Texier la réalise, avec à la technique aujourd'hui, Sofiane Aktib. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
On balance l'ancre.
Où est-ce qu'on est ? On est dans la rade de Villefranche.
La particularité de cette rade, c'est que on a de la grande profondeur, très proche du bord.
On est en train d'installer le câble de plongée, la ligne. Donc on la laisse, il y a 15 kg au bout. Et là, on met la corde dans l'eau. On va la régler sur la profondeur qui va bien.
Ok, bon, on va le mettre sur 51-52. Voilà.
Et on est prêt.
Oh là. Il fait froid.
Bonjour Guillaume Néry.
Bonjour.
Nous commençons notre bivouac dans votre baignoire. C'est ainsi que vous surnommez la rade de Villefranche, près de Nice. Vous étiez avec vos compagnons de plongée, Alice Modolo et Cédric Palerme. Pourquoi considérez-vous cet endroit comme votre baignoire ?
C'est l'endroit finalement qui a vu naître mes premiers rêves d'exploration sous-marine. C'est là-bas que j'ai réalisé mes premières apnées. Et donc je suis complètement tombé amoureux de la discipline. Et finalement, c'est un endroit où je n'ai pas arrêté de plonger et où je continue encore de plonger un peu comme une baignoire que l'on a chez soi et dans laquelle on se baigne régulièrement.
Ouais. Sauf que vous baignez de façon un peu particulière. Hein. Vous êtes capable de rester de très longues minutes sans respirer sous l'eau. Votre record personnel d'apnée, c'est 7 minutes 42. Ça paraît assez inhumain, hein, pour tout dire, même un peu effrayant pour le commun des mortels. Mais vous, c'est lorsque vous retenez votre respiration que vous vous sentez pleinement vivant. Comment vous l'expliquez, ça ?
Quand on retient son souffle, c'est finalement un peu la phase ultime de la maîtrise du souffle. Et moi, j'ai appris grâce à l'apnée que maîtriser sa respiration, c'était une manière de reprendre un peu le contrôle sur soi, se recentrer sur son corps, sur ses émotions. Et je suis pleinement conscience de là où je suis, du temps qui passe. Et je pense que c'est ça, ressentir être vivant.
Ouais. Et puis aussi quand vous vous enfoncez dans les profondeurs. Alors lors de cet entraînement en routine que l'on entendait, vous régliez le câble sur 50-52 mètres de profondeur. Mais lors de compétitions, vous êtes allé beaucoup plus profondément, hein, jusqu'à 139 mètres, on le verra. Mais là, ça s'est difficilement passé. Je voudrais que vous nous fassiez vivre une plongée de l'intérieur en nous décrivant ce que vous ressentez tout au long de la descente, au fur et à mesure que les mètres défilent. fil le long de cette corde. Nous sommes donc pour le moment en surface. Vous prenez une dernière inspiration. La plongée va pouvoir commencer.
5, 4, 3, 2, 1. Official top.
Alors je quitte la surface et je dois tout de suite faire ce mouvement d'ondulation pour descendre. Alors je suis relié à la surface parce que la poussée d'Archimède me contient là-haut et donc je dois palmer. Je dois palmer avec une certaine intensité, mais je dois être efficace parce que je dois consommer le moins d'énergie possible. Donc je vois la vitesse à laquelle je défile en regardant le câble le long duquel je descends. Je me retrouve aux environs des 20 mètres et je commence à sentir tout doucement que le volume de mes poumons diminue du fait de la pression. Alors je mets mes bras le long du corps et je commence à ralentir le palmage. C'est une phase de transition jusqu'aux 30 mètres où là j'arrête complètement de palmer et je peux commencer à glisser sans faire d'effort puisque le corps est suffisamment comprimé, devient suffisamment dense pour pouvoir glisser sans plus aucun effort en profondeur.
À ce moment-là, vous n'avez absolument aucune envie de respirer ?
Dans ces premiers moments de descente, je n'ai aucune envie de respirer et je n'aurai aucune envie de respirer jusqu'en bas. Je me laisse totalement glisser. Je cherche une seule chose, c'est d'arriver à me détendre complètement. Donc il doit y avoir un relâchement des muscles, des tensions physiques et également un relâchement mental. Accepter de me faire engloutir par les flots, accepter que la pression comprime de plus en plus l'organisme et surtout ne pas lutter, ne pas résister.
Mais c'est agréable ce sentiment que vous ressentez à ce moment-là.
Si j'arrive à totalement m'abandonner, à me laisser aller et à laisser la pression écraser le corps, c'est extrêmement agréable parce que toute la matière converge vers l'intérieur et surtout je sens une sensation d'accélération. Je vais de plus en plus vite mais sans faire d'effort du tout et donc c'est un peu comme si je volais sous l'eau.
Vous descendez ainsi au-delà des 100 mètres, en tout cas parfois vous l'avez fait. À ce moment-là, il y a une ivresse des profondeurs, on aurait envie d'aller plus bas.
Alors quand je passe la zone des 100 mètres et puis que j'arrive à mon objectif 110 ou 120 mètres ou plus, j'arrive dans un monde qui est assez hostile. La pression est énorme, mes poumons sont réduits à la taille de 2 points. Il fait froid, il y a quasiment plus de lumière et pourtant, si je suis totalement détendu, relâché, je n'ai aucune envie de respirer. Et c'est un sentiment d'harmonie assez totale, assez puissante avec l'environnement qui est autour de moi. Pour autant, je ne dois pas me laisser déconcentrer et j'ai des actions précises à faire et donc je dois ramener une petite plaquette qui attestera que je suis bien allé au fond. Et là, tout doucement, je suis pris d'un sentiment qui commence quand je suis en bas et qui m'accompagne tout au long de la remontée, d'un sentiment d'ivresse des profondeurs. On appelle ça la narcose. Cette ivresse-là, elle n'est pas comme celle décrite dans Le Grand Bleu, qui est très romancée, qui m'amènerait à me questionner sur rester en bas ou pas. C'est un sentiment assez déstabilisant qui va accélérer le rythme des pensées et qui va finalement me déconnecter un peu du réel et qui va créer parfois même une forme d'angoisse. Donc c'est pas quelque chose que je vais rechercher, c'est quelque chose que j'ai appris à contrôler, à apprivoiser, dont j'ai appris à me détacher et qui m'accompagne tout au long de la remontée. Je commence à avoir envie de respirer aussi, je suis rattrapé par cette réalité de mammifère terrien. Il y a aussi ce corps qui brûle, qui devient acide parce qu'il fournit de l'énergie sans oxygène. Tout ça, c'est à contrôler.
I'm okay.
Merci les gars.
Ça va, poulet, c'est bon.
2,58.
Vous voilà ressorti de l'eau. Elle est importante, cette phrase « I'm okay » pour montrer que vous êtes complètement conscient quand vous ressortez de l'eau. Cette première bouffée d'air que vous pouvez prendre une fois que vous ressortez, c'est quoi ? C'est une renaissance ? Elle a quel goût, cet oxygène que vous pouvez enfin inspirer ?
Cette première inspiration, elle est tellement attendue. Elle est tellement attendue, elle est tellement salvatrice que oui, moi je l'apprécie à chaque fois, même si c'est un peu un... C'est un peu le moment qui marque une rupture nette, brutale. Ma tête sort de l'eau et tout d'un coup, tous les sens sont bouleversés. Je retrouve la caresse de l'air. Il y a de l'air qui s'engouffre dans les poumons. Je retrouve l'odeur, je retrouve le goût. Et puis oui. Tout d'un coup, j'entends le son de mes amis qui sont là. Il y a cette lumière tout d'un coup du jour. Donc c'est formidable parce que c'est effectivement un retour à ma nature terrestre. Je suis un terrien, je vis sur Terre. Mais c'est vrai que ça vient de manière très brutale. Les sens sont bousculés d'un coup.
Alors là, ce que vous venez de décrire, c'est une plongée idéale, quand ça se passe bien. Le 10 septembre 2015, et c'est comme ça que vous ouvrez votre livre « Nature aquatique » aux éditions Artaud, vous avez eu un accident grave de plongée. C'était lors d'une compétition, vous essayez d'atteindre une profondeur que vous n'aviez jamais atteinte. Vous tentez 129 mètres de profondeur. Et là, lors de la descente, vous sentez qu'il y a comme une difficulté.
Effectivement, la descente s'était passée à peu près comme prévu, si ce n'est ce sentiment d'une longueur. Je ne savais pas quoi l'attribuer, si ce n'est au stress, si ce n'est au fait que j'allais à un endroit où je n'étais jamais allé. Et c'était un record du monde. Mmh. Je tentais 129 mètres, donc j'allais finalement à un endroit où personne n'était jamais allé. Et je ne me pose pas vraiment la question. Je vais récupérer cette plaquette et effectivement... dans un sentiment, alors que je suis toujours dans cette recherche d'harmonie, là peut-être qu'à ce moment-là, je suis allé un peu forcer les choses. Pendant la remontée, j'ai affaire, je suis paramétré comme un automate pour rallier la surface, et à quelques mètres de la surface, je perds connaissance, je suis victime d'une syncope. Ce dont je me rappelle, c'est que je reviens à moi sur un petit bateau juste à côté du câble, à peu près 20-30 secondes après être revenu à la surface. C'est l'équipe de sécurité qui me remonte. Et quand je reviens à moi, là, c'est le désarroi. Parce que j'étais assez confiant dans le fait que j'allais pouvoir réussir cette plongée.
Mais vous sentez autour de vous qu'il y a comme un flottement, comme un malaise.
Il y a un flottement. Je sens que c'est pas un accident comme les autres, et donc je vérifie mon ordinateur de plongée qui m'indique la profondeur et le temps de plongée. Et là, stupéfaction, au lieu de lire 129 mètres, je lis 139 mètres. Mmh. Et donc je réalise que j'ai plongé 10 mètres plus bas que ce qui était prévu.
Il y a eu une erreur en fait sur la corde. La corde devait faire 129 mètres. Vous tentez une explication dans le livre, on sait pas trop pourquoi, mais il y a eu 10 mètres de trop sur cette corde, ce qui fait que vous êtes allé 10 mètres plus bas. Et on comprend en vous lisant que, en fait, l'entraînement à ce niveau d'apnée, c'est des mois pour gagner un mètre de plus. Et là, vous avez, sur une erreur, fait 10 mètres de trop de profondeur. Ça ne pouvait que mal se passer, cette plongée.
Oui, ça ne pouvait que mal se passer. Une erreur de 2-3 mètres, je pense qu'avec le niveau de préparation que j'avais, ça aurait pu être gérable. J'aurais probablement remonté à un nouveau record avec surprise de 2-3 mètres supplémentaires. Mais 10 mètres, faut bien se rendre compte que c'est 10 mètres à la descente, mais c'est que ces 10 mètres-là en plus, je dois les remonter. Oui. Donc au total, c'est 20 mètres de plus à nager, c'est plus de pression, c'est un temps qui est beaucoup plus long, et ça pouvait pas bien se passer.
Alors vous le dites, hein, ce jour-là, vous le décidez, c'est un arrêt complet de la compétition, le premier jour du reste de mon existence, écrivez-vous. Qu'est-ce qui va changer à partir de cette date ?
C'est un moment de bascule où je considère avoir un peu fait le tour de la question de cette quête du record. Sur le coup, je dis même j'arrête tout, j'arrête la compétition en me disant je n'irai plus jamais profond. Il se trouve que quelques années après, je retrouve l'envie d'aller en profondeur sans forcément vouloir aller chercher le record. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de me mettre à distance. Et finalement, j'ai besoin de m'ouvrir, j'ai besoin d'enlever les œillères qui m'amenaient à seulement considérer l'apnée comme une discipline de quête uniquement de la plus grande profondeur.
Et vous êtes persuadé que ce recul sera une chance d'enrichir encore votre lien avec la mer, place aux sensations, à l'émerveillement, à l'introspection et au partage. Vous avez fait des films absolument sublimes où on vous voit plonger dans les plus beaux endroits de la planète. Vous allez nous emmener dans vos explorations aquatiques. On reprend notre souffle avant de replonger avec vous, Guillaume Néry, Le Temps d'un Bivouac en apnée sur France Inter.
Je voudrais retourner à la mer, les vagues où naissent les rochers, la terre sur laquelle tu marchais. Je voudrais retourner à la mer. La villa doit être occupée, j'entends résonner d'autres vies, des amoureux déshabillés pour un dernier bain de minuit. Le jour se lève entre les cieux et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique. Je voudrais retourner à la mer, l'amour à peine l'a-t-on connu, qu'il faut s'en aller vaincu sans rien comprendre à son mystère. Je voudrais retourner à la mer, les oiseaux qui tournent dans le vent sans effort, sans mouvement sur la courbure de la terre. Le jour se lève entre les îles, insectes antiques sur les falaises immobiles observent de loin l'Afrique.
Retourner à la mer, c'était Raphaël dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
À une heure de bateau au large de Bornéo, vous ne le trouverez sur aucune carte. Et pour cause, officiellement ce village n'existe pas. 35 maisons, toutes construites sur pilotis, au-dessus de la mer. Un peu plus de 300 habitants. Issus d'une tribu de pêcheurs, les Bajots, le village n'a pas de nom. Les habitants n'ont pas de nationalité.
Nous ne pourrions pas habiter sur terre, car nous sommes trop habitués à la mer. C'est impossible. Nous avons le mal de terre quand nous ne sommes plus sur l'eau. Depuis très longtemps, nos ancêtres ont toujours vécu sur la mer. La terre, ce n'est pas pour nous.
La voix d'Omar Binsarini du peuple Bajo. Notre invité, l'apnéiste Guillaume Néry, est allé à la rencontre des Bajo. Vous vous sentez des affinités avec ces gens qui vivent au plus près de l'océan?
Oui, ça a été effectivement une rencontre très forte, puisque contrairement à moi et à tous les apnéistes modernes, eux ont développé vraiment une relation où la mer fait totalement partie de leur quotidien, et il y a un décalage entre ma modernité et eux, ce rapport fusionnel qui est assez incroyable, mais aussi qui peut être assez dur parce qu'ils vont dans l'eau parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour se nourrir, pour aller nourrir tout le village. Et les gens que j'ai rencontrés, au final, sont assez rapidement abîmés par la mer, par ces milliers d'heures de plongée accumulées. Et
ce sont des apnéistes hors pair. Hein. Ils ont même inscrit dans leur génome des aptitudes particulières pour l'apnée.
Bien sûr, ça fait des générations et des générations qu'ils sont plus souvent sous l'eau que sur Terre. Et il y a eu des recherches scientifiques qui ont montré qu'ils avaient développé certaines adaptations, notamment au niveau de la taille de leur rate, qui permet de mettre à disposition de leur organisme plus de globules rouges, et donc qui leur permet de rester plus longtemps. Et effectivement, ils ont des capacité absolument hors norme.
Quel souvenir vous gardez-vous de vos plongées en apnée avec eux ?
Moi, j'y suis allé vraiment déjà pour les observer, plonger avec eux, donc j'essaie vraiment de rester collé à eux. C'était assez fascinant de se rendre compte de leur gestuelle et de ce qu'ils ont développé comme rapport avec le liquide, comme étant finalement un autre espace dans lequel ils évoluent de manière aussi naturelle que sur Terre. Et notamment, je me souviens de les voir marcher au fond de l'eau avec un fusil en quête de poisson, avec vraiment le sentiment que j'avais affaire à des chasseurs dans une forêt à l'affût d'un mammifère ou d'un oiseau, de manière complètement naturelle. Et moi, je regardais ça, et c'était assez fascinant.
L'histoire des humains avec la mer est longue, hein. Vous le dites dans votre ouvrage Nature aquatique, la pratique de la plongée en apnée, on en a des traces qui remontent à plusieurs dizaines de milliers d'années. Hein.
Oui, on retrouve, alors c'est assez compliqué de pouvoir établir des chiffres précis, mais on retrouve des traces de certains coquillages dans des anciens campements qui attestent que ces coquillages ont forcément été pêchés par l'intrusion de l'homme sous l'eau. Il faut s'imaginer, il y a 10, 20, 30 000 ans, ce que devait représenter la mer, et encore plus ce qu'il y a sous la mer, sans masque, sans rien, l'inconnu total. Mmh. J'ai une espèce de fascination et un grand fantasme de pouvoir voyager dans le passé et pouvoir regarder, observer ce qu'étaient ces pérégrinations des humains sous la surface.
Alors pour vous, hein, Guillaume Néry, quand vous étiez enfant, l'envie d'exploration s'est d'abord épanouie en montagne. Hein. Vous dites que le souffle de l'exploration est né au cours de vos escapades dominicales dans le parc du Mercantour. Alors comment êtes-vous venu à l'apnée ?
Alors moi j'ai grandi à Nice. Et à Nice, c'est le département des Alpes-Maritimes. Donc il y a vraiment cette coexistence entre la fin de la chaîne montagneuse des Alpes qui va se jeter dans la mer. Et donc c'est vrai qu'au début j'étais plus dans cette verticalité dans les hauteurs, mais au final un peu partout, que ça soit à Nice et même du haut des montagnes, on voit la mer quelque part à l'horizon. Donc c'est un peu une espèce de suite logique.
Mais le goût de l'apnée, il naît dans un bus avec un autre camarade avec lequel vous veniez de jouer au tennis, mais vous aviez encore envie de compétition, donc vous amusez à retenir votre souffle, votre respiration dans le bus pour voir qui tient le plus longtemps. Ce jour-là, il vous bat à plate couture, vous êtes vexé, vous continuez à vous entraîner dans votre chambre d'adolescent, et c'est là que vous prenez goût à l'apnée.
Oui, au début, c'était vraiment une espèce de quête du chronomètre, une quête de l'orgueil. C'était un défi de plus, un challenge de plus. Mais là, il se passe quelque chose parce que il y a une forme d'exploration, malgré le fait que j'étais dans ma chambre, dans mon lit et que je ne bougeais pas de mon appartement. Il y avait une exploration différente que je découvrais. C'était l'exploration du corps et des limites de mon propre corps. Mmh. Et arrêter de respirer, c'était un peu un pied de nez à l'ordre établi, à la nature. Bon, on est là, on est du vivant, on doit respirer. Et ben moi, j'arrête de respirer et je suis toujours là et je suis capable de tenir de plus en plus longtemps. Et je crois que ça m'a complètement fasciné. Et un jour, en voyant un reportage à la télé, en voyant des belles images sur le champion italien qui s'appelle Umberto Pellizzari, qui est un peu une grande légende dans notre monde, je le vois plonger en apnée et je fais un lien. Je me dis, ah d'accord, ce que je fais là dans mon lit, en fait, ça peut servir à ça. Sauf que la mer, elle est devant, elle est là.
Et, oui.
et c'est comme ça que je décide d'y aller. Et là, le vrai coup de foudre arrive.
Ouais, le vrai coup de foudre aussi avec ce que vous appelez la tribu des apnéistes. Vous allez intégrer, en fait, cette tribu. On se rend compte en vous lisant à quel point l'apnée est un sport, une discipline collective, hein, ça se fait en groupe, ne serait-ce que pour avoir les apnéistes de sécurité lorsqu'on tente de faire un record ou de faire une plongée profonde. Vous apprenez aussi les techniques pour retenir de plus en plus longtemps votre respiration, pour vous préparer à ces plongées profondes. D'ailleurs, ce moment, juste avant d'entamer une plongée dans les grandes profondeurs, il est important. Voici ce que disait le célèbre plongeur apnéiste Jacques Mayol au sujet de ces secondes qui précèdent une plongée profonde. Nous étions en 1989.
Ce sont des secondes qui, en fait, n'existent plus. En fait, le temps est fonction de notre affectivité. eh bien, on arrive dans ce cas spécifique de la préparation à la plongée profonde à être quasiment hors du temps. Plus on descend profond, plus on a cette impression de détachement total de tout ce qu'on a appris jusque-là, de tous ces concepts, parfois erronés ou parfois strictement relatifs, de certaines choses. Quand je pars, je ne suis pas un poisson sans sentiments, mais je vais au-delà des sentiments. C'est-à-dire, et c'est là que le zen, les techniques zen m'ont aidé. Et c'est bizarre, parce que dans la vie courante, je suis un type tout à fait normal, embêtant, parfois casse-pied, agressif, etc., etc. Mais dès que je suis au contact de l'eau, dès que je suis avant mes plongées, je fais partie du vent, de la mer, des mouettes, je ne sais pas, je deviens autre chose.
Jacques Mayol, en 1989, dans l'émission Antipode sur France Inter, vous éprouvez ce qu'il décrit avant de plonger, Guillaume Néry?
Oui, ce sont des mots très très forts, hein. C'est très émouvant de l'entendre parler avec autant de justesse de ce pouvoir de la respiration. Effectivement, la respiration qui précède la plongée, c'est un peu ce moment de transition. C'est un moment où finalement on rentre dans une forme d'autre dimension dans laquelle on est dans une espèce d'alignement. On se connecte en profondeur avec toute la matière du corps. On met un peu en silence les pensées, les émotions, et finalement c'est un peu comme si l'apnée avait déjà commencé.
Ce moment, vous le décrivez merveilleusement bien dans votre livre, où vous êtes allongé sur l'eau, vous faites face au ciel, vous avez les profondeurs dans le dos, celles dans lesquelles vous allez bientôt vous immerger. Ce moment, c'est une forme de méditation. Comment vous le décririez?
Oui, c'est une forme de méditation. La méditation, c'est ni plus ni moins qu'à un moment donné être complètement en présence, être là et avoir une espèce de conscience très très poussée de tout, d'être vivant, du souffle. Et finalement, ce moment avant de plonger, c'est un moment d'extrême lucidité, de très grande conscience. Et donc oui, c'est une forme de méditation qui permet aussi, d'un point de vue physiologique, de rentrer dans une forme d'hibernation. Le corps se met au ralenti, le cœur ralentit aussi, la consommation d'oxygène est minimale, et ce sont vraiment les meilleures dispositions pour pouvoir quitter la surface.
C'est une plongée à l'intérieur de soi, une plongée en apnée.
Exactement, cette plongée intérieure, elle commence dès la surface. Et dès que ce dernier souffle est pris et qu'on quitte cette surface et qu'on se retrouve totalement englouti, enseveli de bleu, et ben finalement, l'eau, elle nous laisse pas d'autre choix que de nous ramener à l'intérieur des frontières de notre propre corps.
Mais elle vous ramène aussi à vos limites et parfois de façon vraiment très difficile lorsque vous faites des plongées. Vous êtes allé en Finlande pour plonger sous la surface gelée de lacs dont l'eau en dessous de la glace faisait 2 degrés. Vous avez même effectué certaines de ces plongées sans combinaison, hein. Donc vraiment, votre peau était à même cette eau glacée. Là, c'est encore un plaisir quand on plonge. Donc, on fait un trou dans la glace, on plonge, on a ce couvercle de glace au-dessus de la tête quand on est sous l'eau. C'est encore un plaisir.
C'est une véritable expérience. Il faut dominer les réflexes du corps, parce qu'effectivement, le corps a envie de hurler. On est assailli par les morsures du froid. Il y a une forme de douleur quand on met les pieds, les jambes. C'est un travail qui est mental, très puissant, et là la respiration, encore une fois, joue un rôle fondamental. Mais ce qui est assez fascinant, parce que là, quand les auditeurs qui nous écoutent doivent se dire « mais pourquoi, à quoi bon ?»
Oui.
Et pour autant, il y a une expérience très puissante à partir du moment où on passe totalement sous la surface, notamment quand on est en maillot de bain, le corps se met dans un espèce d'état de choc. Et ça confère finalement une expérience qui est quasi mystique, spirituelle, parce que pour s'adapter à cet environnement extrême, à un moment donné, il se passe des choses au niveau physiologique, bah finalement, qui nous permettent de nous presque de nous couper de cette sensation de douleur. Et on est, alors là, si on parle de temps qui se suspend, on le vit pleinement. On sait très bien qu'on peut pas rester trop longtemps, mais c'est comme si l'intensité du moment nous amenait à une forme d'élévation proportionnelle à cette à la violence du choc. Et pendant quelques secondes, on est vraiment totalement là, totalement présent. Et c'est probablement parce qu'on sait que cet état, il peut pas durer. Voilà. Et je pense qu'il faudrait entendre ce qu'a à dire Arthur Guérin-Boëry, qui est un très bon ami apnéiste et qui vient de battre un record sous glace au Canada en maillot de bain. Il a parcouru plus de 100 mètres sous la surface de la glace. Et là, c'est encore un niveau au-dessus. Moi, je suis vraiment allé passer quelques secondes pour l'expérience.
Allez, on va se réchauffer dans un instant. Vous allez nous emmener plonger avec des cachalots dans des eaux beaucoup plus chaudes. Vous avez vécu avec ces mammifères marins de véritables moments de grâce en apnée, Guillaume Néry. Vous allez nous le raconter. Vous êtes bien sur France Inter, vous écoutez Le Temps d'un Bivouac. Things will be fine de Métronomie.
France Inter, le temps d'un bivouac. C'est une mère cachalot en pleine force de l'âge. Elle a 45 ans et elle vient de donner naissance à son petit dernier. Elle s'apprête à plonger. Guillaume veut la suivre dans son monde. Il remplit ses poumons. Elle vide complètement les siens. C'est parti vers les profondeurs. 10 mètres. Guillaume décompresse. 30 mètres. Les poumons de Guillaume se compriment. Pas ceux de la matriarche. Elle a stocké l'oxygène dans ses muscles. 50 mètres. Impossible de la suivre. Elle va trop vite. Ivresse des profondeurs. S'il va plus profond, il risque l'accident. La matriarche continue sa descente, car elle a un objectif précis. Chasser les grands calamars qui vivent à 1000 mètres de profondeur. Guillaume a beau s'appeler Néry, il n'a pas tenu un round contre elle.
Extrait de la série documentaire Méditerranée, l'Odyssée pour la vie, qui sera diffusée sur France 2 à partir de mardi 12 avril à 21h. série dans laquelle notre invité, l'apnéiste Guillaume Néry, fait des apparitions. On vous voit donc notamment plonger avec des cachalots. Vous l'avez fait à plusieurs reprises, hein, plonger avec des cachalots pour d'autres films. Ces rencontres avec ces animaux marins champions de l'apnée, ce sont des expériences inoubliables pour vous, Guillaume.
Oui, le cachalot, c'est toute une mythologie, c'est Moby Dick, forcément, c'est le mammifère marin qui est connu pour être, alors on pensait que c'était le plus profond, il se trouve que c'est le deuxième ou le troisième plus profond, en tout cas, il descend à près de 2000 mètres de profondeur. Il peut tenir une heure et demie en apnée.
Là, vous êtes battu à plat de couture.
Ah, là, je peux rien faire, ouais. Et aller rencontrer cet animal emblématique, c'est une expérience très très puissante. Ouais. Puis,
comment se passe l'approche justement de ces alors ils vivent en clan, hein, les cachalots, ce sont des mammifères avec une organisation sociale très codifiée. Quand vous approchez le clan, vous êtes tout de suite accepté?
Alors ça dépend parfois pour obtenir des images, on se met à l'eau et les cachalots passent, ils nous regardent et puis ils continuent et il faut faire preuve de patience, il faut pas forcer les choses. À un moment donné dans les rencontres animalières, elles sont les plus fortes quand ce sont eux qui acceptent de nous accueillir entre guillemets, en tout cas de nous laisser nous approcher de la sphère intime.
Ouais. Et sous l'eau, les cachalots émettent des clics, ils s'en servent comme sonar, ça ressemble à ça. Quand vous les approchez, les cachalots, vous les entendez, ces clics, Guillaume Néry?
Oui, on les entend, voire même on les ressent presque comme une forme de vibration. On se sent
scanné.
On est vraiment scanné. Enfin, on se sent pas, on est réellement scanné. C'est une manière pour cet animal de pouvoir voilà, connaître un peu la nature de cette espèce d'objet identifié qu'il a devant lui. Et donc c'est très impressionnant, hein, parce que pour nous scanner, il met vraiment sa tête qui est très massive face à nous. Et puis voilà, il nous regarde et puis on ressent ces espèces de clics. Ce sont des animaux qui, de par leur forme, ont quelque chose d'atypique, de très particulier.
Dans un de vos films, One Breath Around the World, Un souffle autour du monde, on vous voit nager autour de ces géants immobiles. Ils sont à la verticale, comme suspendus, dressés, un peu comme des monolithes, hein, parce que c'est vrai que c'est très cylindrique, hein, un cachalot. Ils étaient en train de faire la sieste, c'est ça?
Exactement, on dit qu'ils sont en chandelle. Et ça, c'est un moment, c'est un comportement animalier qui est extraordinaire. C'est un des trucs les plus forts que j'ai pu voir sous l'eau, en comportement animalier. Et effectivement, dans ce film, je m'approche délicatement en essayant d'être le plus discret, silencieux possible pour pas les réveiller. Personne ne m'est réveillé de sa sieste. Et voilà, je me balade derrière eux. Et effectivement, là, je sais même plus si je suis dans l'eau, si je suis dans un film de science-fiction avec des extraterrestres voilà, qui sont là posés. Ça m'a fait penser au film Premier Contact, où il y a ces monolithes comme ça posés. Ça tout de suite, ça m'a ramené dans cet univers-là. C'est assez fascinant, très impressionnant.
Ouais. Et puis ils enseignent aussi un peu l'humilité, ces cachalots qui plongent jusqu'à 2000, 3000 mètres de profondeur. Vous, quand vous parlez dans votre jargon des abysses, des profondeurs, c'est 100, 120 mètres maximum. En fait, vous ne restez jamais qu'en surface.
Non, exactement. Ça remet vraiment les choses en perspective. Il suffit de faire un dessin à l'échelle. Si on prend une grande feuille A3 et qu'on essaie de mettre 3, 4000 mètres, on va dire le plafond océanique est aux environs des 4000 mètres et que je regarde ce que représente la petite centaine de mètres dans laquelle je plonge, effectivement, ça remet vraiment les choses à l'échelle. Et oui, j'essaie d'abandonner du coup ce vocabulaire des abysses qu'on a emprunté au monde scientifique. Mais les abysses, en réalité, c'est beaucoup plus loin que 100 mètres.
Ouais. Enfin, déjà, dans cette partie des océans, on fait de belles rencontres. Vous avez au large des Galapagos plonger avec une horde de requins. Alors là, on est avec des animaux beaucoup plus éloignés de nous, hein. Ce ne sont plus des mammifères. Pourtant, vous avez ressenti
un sentiment de communion très fort avec ces requins.
Ah oui, c'est une expérience vraiment que je n'oublierai jamais. Donc j'étais sur une petite île qui s'appelle Darwin, qui est l'île la plus au nord des Galapagos, et qui est assez connue pour ses passages de bancs de requins marteaux. Donc c'est des bancs de 100, 150, 200 individus qui gravitent entre les îles Cocos, les îles Malpelo au large de la Colombie et les Galapagos. Et à un moment donné, je les vois passer en dessous et je décide, voilà, c'est la force de l'apnée, hein, c'est qu'on a juste à prendre un souffle et puis on descend, c'est pas très compliqué. Ils sont à 10-15 mètres, je descends et je me faufile, j'essaie de prendre ma place pour essayer de faire partie du groupe. Et là, je vis un peu une expérience puissante, alors j'ai pas envie de basculer dans l'ésotérisme, mais quelque chose d'assez spirituel où voilà, ils s'écartent. Et j'ai mon petit espace d'évolution et je nage dans le même rythme qu'eux. Et en fait, je regarde partout et il y a que des requins qui avancent et on avance tous dans la même direction. Et pendant un laps de temps assez court, de peut-être 30 secondes, une minute, j'ai cette espèce de sentiment de ne plus être un spectateur ni même d'être une espèce d'acteur d'une action incroyable. Je suis juste le vivant parmi le vivant. Et je ressens une forme d'intégration complète dans la nature. Et c'est un peu la première fois, alors que j'avais déjà vu des dauphins, des requins et tout un tas d'animaux, là, cette position que j'ai eu la chance d'avoir, d'être au cœur
de
la meute, au cœur du banc, j'ai intégré l'espace d'un instant, ce monde animal. En fait, je suis un animal, mais je l'ai pleinement ressenti, pleinement vécu à ce moment-là. Ça a été très très fort.
La plongée en apnée est source d'émotions et de sensations très fortes, pas seulement au contact des animaux marins. Il y a des reliefs sous-marins, des paysages à couper le souffle, si j'ose dire. C'est le cas du Dean's Blue Hole, au large des Bahamas.
C'est un gouffre sous-marin, un trou noir de 35 mètres de large, une porte d'entrée dans les abysses. Le Dean's Blue Hole est l'une des plus grandes grottes verticales du monde. 202 mètres de profondeur. Protégé par des falaises abruptes, le vent ne l'atteint pas, ni les vagues. Seul un bras de mer le relie à l'Atlantique. C'est le paradis des apnéistes.
Contrairement à la pleine mer, c'est assez cloisonné, donc il fait beaucoup plus sombre. Donc forcément, ça nous met encore plus à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, et c'est ce qu'on va rechercher à travers l'apnée.
On pénètre vraiment dans une autre dimension. Il fait nuit noire. On a juste un petit faisceau de lumière qu'on met sur la cagoule de notre combinaison qui nous éclaire. On voit des particules voler, du sable. On a l'impression d'être dans un autre monde.
C'est un lieu un peu mystique et chamanique. Ça représente un peu le ventre de la mer. Et donc, c'est vraiment un voyage de plonger ici.
Les voix des apnéistes Stéphane Toureau, Alice Modolo et David Carrera, tous trois semblent envoûtés par cette grotte verticale sous-marine près des Bahamas. Vous y avez tourné un clip, Guillaume Néry, Free Fall. On peut le voir sur Internet. Les images ont déjà fait le tour du monde. Elles sont fabuleuses. Elles sont aussi un peu inquiétantes, ces images. Décrivez-nous cet endroit.
Alors oui, le Dean's Blue Hole, mes compères, mes amis l'ont bien décrit, c'est un endroit qui est complètement insolite. Tout autour, il y a vraiment une plage de sable blanc qui renvoie la lumière. Donc, il y a vraiment cette carte postale des Bahamas, de l'île paradisiaque. Et puis, en fait, ce fond de sable blanc glisse tout doucement vers une espèce de précipice. Et là, c'est la porte d'entrée d'une bouche béante qui est ce trou... Alors, il s'appelle le Dean's Blue Hole, ce trou bleu, mais en réalité, c'est vrai que c'est noir.
C'est noir.
C'est noir et c'est un trou qui a quasiment une forme circulaire parfaite. Et c'est au début vertigineux, c'est vraiment intimidant.
Mais alors vertigineux, ça veut dire que sous l'eau, on peut avoir le vertige.
Alors moi j'ai un peu le vertige sur terre, et là bizarrement dans l'eau je ne l'ai pas, mais j'ai des amis qui ont vraiment ressenti ce vertige et qui ont mis du temps avant de s'habituer. Effectivement, comme disait Davide Carrera, plonger là-dedans, dedans, c'est un peu plongé comme dans un ventre. Alors moi, je ressens pas, j'éprouve pas la même chose. Moi, ce que j'aime dans l'apnée, c'est à un moment donné arriver à me fondre dans le bleu. Et dans cet univers, les couleurs virent au noir très rapidement. Il y a quelque chose d'un peu oppressant. Même si effectivement c'est une plongée à l'intérieur, comme disait Stéphane Toureau, moi je sais que quand je plonge, j'adore plonger en Méditerranée, parce que j'entr'ouvre les yeux et je vois ces nuances de bleu qui évoluent. Et même au fond, s'il fait sombre, il y a quand même ce bleu profond. Et dans le Dinsblow, on l'a pas ça. C'est un noir total absolu. Et finalement, c'est pas moi ce que je vais rechercher. Donc j'ai voulu le mettre en lumière pour ce film, Free Fall, pour vraiment raconter de manière imagée ce plongeon dans l'inconnu. Ce trou bleu représente l'inconnu. On sait pas ce qu'il y a. Mais pour la plongée personnelle, pour la grande profondeur, pour moi, il n'y a qu'un endroit, c'est la Méditerranée.
Allez, on poursuit nos explorations aquatiques avec vous, Guillaume Néry. Et dans un instant, c'est en pleine jungle mexicaine que vous allez nous emmener plonger. Oui, oui, de l'apnée en pleine jungle. C'était Le Lac, chanté par Vendredi sur Mer, dans le temps d'un bivouac, et notre programmation musicale est signée Valentine Chédebois.
Pour les Mayas, il y avait le ciel et la terre, bien sûr. Mais sous cette jungle mexicaine, il y avait un troisième univers. Ici, l'eau est cristalline, l'eau douce des rivières sous la terre. Au total, ces dernières années, 1600 kilomètres de galeries et de grottes ont été découvertes. David Mayor, le français, et Alessandro Reato, l'italien, en sont les explorateurs.
Là, il y a le petit côté émotion, en fait, qui est là.
C'est vraiment aller dans l'inconnu et explorer, de voir des choses que peut-être personne n'a vues. Waouh!
Explorer ce réseau aquatique souterrain est périlleux. Les deux plongeurs sont très expérimentés et emportent chacun une double ration d'air.
Si je perds une lampe, une palme, même un masque, c'est pas très grave. Mais sans air, je meurs. L'air, c'est vraiment le plus important.
Les scientifiques pensent qu'on ne connaît qu'une petite partie de ce qui existe sous la jungle du Yucatan. Tout comme le fond des océans, le monde souterrain est l'une des dernières grandes frontières inexplorées de notre planète.
Tout tout un inframonde à explorer sous la jungle du Mexique. On appelle ces gouffres traversés par des rivières souterraines les cénotes. Les plongeurs qui les explorent prennent double ration d'oxygène. Vous, Guillaume Néry, vous y avez plongé en apnée. Dans un précédent livre, À plein souffle, aux éditions Glénat, vous dites que c'est la plongée la plus surréaliste et la plus inattendue de toutes vos explorations que vous avez réalisées dans ces notes. Décrivez-nous cette ambiance. D'ailleurs, la photo de couverture de votre ouvrage Nature aquatique est tout prise dans les cénotes.
Bon, tout est sensationnel et tout est insolite dans les cénotes. Déjà le décor extérieur, on est en plein milieu de la jungle du Yucatan. Et puis il faut ouvrir les yeux pour voir ces gouffres vraiment creusés dans la terre. Et là on s'enfonce, c'est presque un peu inquiétant de l'extérieur. Et puis dès qu'on met la tête dans l'eau, effectivement, l'eau est translucide, c'est-à-dire que l'eau se fait oublier. Ouais. Et ça, c'est un peu le rêve, le fantasme ultime des plongeurs et des apnéistes. Pourquoi ? Parce que nous, on aime descendre, on aime plonger, et à un moment donné, on se laisse complètement flotter. Et quand il n'y a pas la vision de l'eau, on a l'impression d'être dans l'air. Et vraiment, il y a des moments où on a l'impression de pouvoir être dans un espèce de rêve, comme quand on arrive à pouvoir voler. Et ben là, on vole littéralement sous l'eau. Et il y a des décors de lumière assez incroyables, puisque cette lumière s'engouffre par ces entrebâillements de la terre, et donc ça fait des rayons. Et c'est justement la photo de Nature aquatique où on voit ce rayon qui transperce ce bleu sombre. Et il y a certains cénotes où il y a carrément des décors mystérieux, ouais. Notamment le cénote Angelita, où il y a une forme d'île qui s'est constituée au milieu de ce cénote du fait de tous les branchages de la jungle qui sont tombés dans le cénote, qui ont créé un espèce d'enchevêtrement. Dans une eau translucide, on est dans un autre monde. C'est incroyable.
Ouais, c'est incroyable. Et ce qui est aussi fascinant dans votre livre, c'est qu'on se rend compte que pour découvrir n'importe quel lieu, il vous faut une part d'eau. D'ailleurs, vous le dites, il me faut pouvoir m'immerger pour pouvoir m'immerger dans la géographie d'un lieu, mais même dans un lieu où il n'y a pas du tout la mer.
Oui, complètement. Au début, j'en avais pas vraiment pris conscience, mais au fur et à mesure de mes différents voyages, parfois je ne voyage pas forcément pour plonger à l'origine. Je raconte notamment des expériences dans le nord de l'Europe. Je raconte aussi à Paris, dans les canaux parisiens.
Canal Saint-Martin. Vous plongez un lac sous une pluie battante à Ushuaïa. Vous plongez
exactement
en Afghanistan, un lac. Paf,
voilà, l'idée, plongez. C'est d'aller juste se mettre, d'aller dans l'eau, d'aller sous l'eau. Et c'est comme si, à un moment donné, je mettais la première pierre qui me permettait de véritablement débuter mon voyage. Ouais. Comme si c'était le moyen pour moi de m'ancrer totalement dans un lieu, de prendre le contact de la géographie du coin. Et avant d'avoir plongé, c'est comme si je survolais l'endroit, mais que je n'y étais pas encore vraiment.
Alors, vous avez voyagé aux quatre coins du monde. Hein. On l'a découvert dans cette émission, dans les endroits les plus superbes. Et vous dites, au détour d'une page, que l'une des expériences les plus extraordinaires de votre vie, c'est une marche que vous avez faite entre le Mont Ventoux et Bouvières, dans la Drôme. C'est pas juste pour la formule, c'est vraiment le cas.
Ah, c'est vraiment le cas. Je pense que j'avais envie de faire une petite aventure toute simple. J'aime la simplicité, c'est pour ça que je plonge en apnée. Et le pendant de l'apnée qui correspond à cette approche ultra simple du mouvement, bah c'est la marche. Et donc ça faisait un moment que j'avais envie de faire une marche. J'avais beaucoup aimé le récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs où il traverse la France à pied. Et je me suis dit, je vais faire un truc un peu similaire à ma petite échelle sur peu de temps, parce que malheureusement j'avais peu de temps. Et donc voilà, moi j'ai des origines dans la Drôme. C'est un département que je connais bien, où la famille du côté Néry a des ancrages. Et voilà, j'ai fait cette petite marche toute simple et que je n'appelle pas une randonnée. C'était plutôt un vrai voyage, parce que je suis passé par des chemins, puis par des morceaux de route. Et l'idée, c'était de rallier un point A à un point B. Mmh. Et finalement, c'est comme si j'avais redéfini un peu le rapport au monde, le rapport à la vitesse, le rapport au déplacement. Et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, d'une simplicité énorme. Et depuis, j'aime bien faire ces petites expériences de voyage à proximité. Il n'y a pas besoin d'aller partout dans le monde pour faire ça.
Mais avec toujours dans le sac à dos de quoi plonger.
Avec toujours dans le sac à dos un masque et un maillot, évidemment.
Ouais, la nature aquatique ne vous quittera jamais. Nature aquatique, tel est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Artaud, Guillaume Néry. On a mis sur la page Instagram du Temps d'un Bivouac quelques photos de vous lors de vos plongées en apnée que vous nous avez offertes. Un grand merci à vous, Guillaume Néry.
Merci.
Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast avec l'application Radio France. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.